Mais ils sont pas tout le temps beaux. Hein, Frank? Là, je vise pas personne. Là. J'aimerais juste vous présenter un petit peu, vu que c'est une soirée pour qui provient du face-à-face, vous introduire un petit peu c'est quoi le face-à-face. Ensuite de ça, il y a Lydia qui va venir nous parler un petit peu des activités que le face-à-face font. Puis ensuite de ça, ça va être, on va avoir, c'est vrai, un petit 4 minutes pour une espèce d'album photo de la rétrospective pour l'année. Puis ensuite de ça, ça va être la prédication avec Jeff. Le face-à-face, c'est un groupe de 18-25, en théorie. Il y en a qui ne veulent plus décoller, fait qu'ils sont pris là. Mais en général, c'est entre 18 et 25 ans. Dans le fond, on se rassemble les mercredis soirs pour prier, adorer, avoir de la communion aussi ensemble. Mais aussi, il y a des enseignements centrés sur la Bible ou des sujets qui pourraient être pertinents pour cette gamme de personnes-là. Pour pas dire clientèle, mais les 18-25 ans. On sait qu'ils sont dans un tournant, de leur vie, puis il y a des décisions, il y a beaucoup aux études. Et puis, il y a un leadership qu'on qualifie de spirituel qui est là, dans le fond, pour chapeauter un petit peu tout ça, pour donner une direction, mais aussi une organisation à tout ça. Mais évidemment, en fonction des besoins. Fait qu'on essaie d'être aussi proche des jeunes. Et le leadership est composé de, je ne peux pas l'oublier, il y a 10 personnes environ cette année, parce qu'à un moment donné, il y en a eu un petit peu moins, mais il y a Adama Dico, il y a Lise Dupont qui est avec nous, qui je ne sais pas ce qu'on ferait s'il n'était pas là. Il y a Michel Penneau, il y a Jeff Poisson, il y a Francis Lydia, il y a moi-même, il y a André Audet, et il y a, pour un congé parental, il y a Christopher et Myriam aussi qui sont là, qui ont donné l'an passé un gros coup de main. Et dans le fond, c'est ça, on essaie de voir les dons spirituels, en quelque sorte, des jeunes, dans le but d'y faire travailler afin qu'ils puissent être avec nous dans l'Église comme étant des adultes aussi. Il y a des personnes qui sont coachées pour différents ministères et dans le fond, c'est d'assurer autant leur croissance dans les dons que leur croissance pour tout le groupe, autant au niveau spirituel que personnel. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans le service, l'évangélisation, même dans la mission. Il y en a qui ont fait la mission. Il y a quelques-uns qui commencent dans l'enseignement avec le face-à-face. Et il y a d'autres portes, tranquillement pas vite, qui s'ouvrent. En ce qui concerne les enseignements, dans la dernière année et quelques, on a travaillé avec le livre des Actes et on a passé tout le livre des Actes. Et ça, c'est entrecoupé de différents enseignements ou des invités. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le prochain thème, parce qu'on finit Actes dans 2 ou 3 semaines. Et le face-à-face, je ne sais pas encore, et je vous annonce le prochain thème. Et c'est un thème qui ne vient pas de moi. Je tiens à souligner, parce que si c'est moi qui l'amenais, ça n'aurait pas été original et ça l'aurait été refusé. Mais j'étais le premier à donner mon appui, par contre, à ce thème. Et c'est le livre « La raison est pour Dieu ». C'est un livre d'apologétique. Et on croit que il y a beaucoup de questions qui sont faites, que les jeunes peuvent se faire poser. Et on veut aller répondre à ces questions. L'apologétique, c'est le terme qui est utilisé par Pierre dans 1 Pierre 3,15, où ce qu'il dit « Soyez prêts à vous défendre de l'espérance qui est en vous ». Et le mot « défense », c'est en grec, c'est « apologia », apologétique. Ça veut juste dire « défense ». Et donc, on veut construire avec vous, avec nos jeunes, un modèle biblique pour répondre à certaines questions. Et on s'inspire du livre, parce qu'il vient d'être traduit en français, puis il est très bien fait, puis il s'adresse à des questions réelles qu'on se fait poser. Comme par exemple, il n'a pu exister qu'une seule religion, ça se peut pas. Comment concilier un Dieu d'amour avec tant de souffrances? Le christianisme est-il une entrave à ma liberté? Qu'en est-il la question de l'enfer? Est-ce que la science démolit la Bible? L'évolution explique-t-elle notre origine? Mais l'apologétique n'a pas juste la défense de la foi chrétienne, c'est pas juste de montrer que les autres ont tort. Mais c'est aussi de montrer que c'est cohérent ce que nous, on pense. Et donc, on veut construire avec eux aussi des évidences pour l'existence de Dieu, expliquer le modèle biblique du péché, la religion versus l'évangile, la vraie histoire de la croix, la résurrection, la Trinité. C'est des sujets qui vont être abordés. Et dans tout ça, il y a toujours des places pour des questions. Puis les jeunes, on peut intervenir avec eux puis répondre aux questions. Donc, c'est un petit peu le plan de match pour notre année. Et puis, là, on a une partie du groupe, mais c'est vraiment... on veut aller vers les besoins. Puis on espère que la prochaine année va être enrichissante. Et j'aimerais souligner aussi qu'il n'y a pas juste Cap de la Madeleine qui est avec nous. Je pense à René Désiel qui des fois lui-même vient nous rendre visite de l'Assemblée de grand-mère. Il amène des personnes et il y a d'autres assemblées aussi qui viennent participer. Donc, est converti aussi. Hein. Il y a eu même des conversions au face-à-face. Donc, c'est un bon outil. Puis, vous pouvez toujours nous envoyer du monde. On va les accueillir. Et je vais inviter Lydia Descoteau à venir parler des activités du face-à-face.
Il est allé jouer dans mes plates-bandes. Bon, ben, je vais commencer à vous expliquer un petit peu... après des photos. OK. Je vais commencer à vous expliquer un petit peu le fonctionnement dans le fond, du face-à-face du mercredi, parce que c'est là que ça part tout, dans le fond, puis c'est là que ça part les activités, puis tout ça. Dans le fond, il a expliqué un petit peu, Jean-Luc, tout à l'heure, on commence, on arrive, on jase tout le temps. Nous autres, on aime ça parler, si vous me connaissez. Puis, après ça, on a un temps de louange, on a un enseignement, on a un temps de prière, puis après ça, on a une collation, puis on continue de parler comme on aime tant faire. Mais comme il a dit, on a souvent aussi des invités, des inconvertis qui vont venir, ou pas nécessairement convertis aussi, c'est une manière d'amener aussi, je pense qu'on a beaucoup de personnes, notamment de l'université, qui viennent de l'extérieur, ou... des gens, alors j'en ai rencontré aussi des Colombiennes récemment, puis c'est vraiment un endroit où les gens qui viennent de l'extérieur peuvent se rassembler, puis connaître d'autres mondes, justement, puis parce que sinon ça devient difficile d'arriver dans un endroit où ils peuvent être perdus et désorientés. On a aussi beaucoup d'invités spéciaux les mercredis soirs. Cette année, on a eu la famille Kalumah, c'est des missionnaires qui viennent du Congo. On a eu Gilles Despins, Bill Francis, puis d'autres à venir cette année. Ensuite, pour les activités, on a toutes sortes d'activités, les sports, on a joué au soccer tout l'été, on va jouer au hockey, mettons, on a des sports d'hiver aussi en plein pour cette année. On est allé au Mont Washington faire la randonnée. On va voir des photos en passant pour la plupart des choses que je vous dis, fait que ça va vous imaginer un petit peu ce que je dis. On a aussi un party de Noël, party de Saint-Jean, fait qu'on a plusieurs activités comme ça tout au long de l'année. On a aussi beaucoup de membres du face-à-face qui sont impliqués dans beaucoup de ministères dans l'Église, puis même à l'extérieur de l'Église. Je pense à la garderie, au ménage, en passant. Cette année-là, on a tout lavé, pas moi, je m'exclus. On a tout lavé les tapis ici, c'est pour ça que c'est tout propre comme ça. Puis, c'est ça, on est impliqués, il y a aussi du monde qui sont impliqués dans des camps, la Villa du Carmel, on est allé aussi au camp Brochet, toutes sortes de camps. Jolibé. C'est pour toi, Kyria. On a aussi la musique, comme vous avez pu voir, l'école du dimanche aussi cet été. On a plusieurs personnes qui ont été impliquées là-dedans. Puis finalement, le GBU, c'est le groupe biblique universitaire. On a Jonathan qui est impliqué, Alencar. On a quelques personnes, moi aussi, là, qu'on est impliqués dans le GBU. Puis finalement, mais non le moindre, ce que je préfère de tout, les missions. Donc, on pense, Jonathan qui est parti au Mexique au mois de mai, mai-juin, dans ce bout-là, il est parti au Mexique. On a aussi le groupe Aquaba, puis on a aussi un projet de possiblement voyage missionnaire en Amérique du Sud. Donc, c'est un sujet de prière, définitivement. Puis voilà, moi, je vais vous... Est-ce qu'on peut passer la vidéo Ah, puis il fallait aussi que je vous dise, je vous parle du summum du face-à-face, la beauté de Jeff, qui m'a... Inside, si vous ne comprenez pas, c'est pas très, très important, mais voilà. Merci.
Mmh. exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. La confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison.
Bon. Oh, je sais, il est bon. Ça. Je pense que quelqu'un a mis une gomme sur ma feuille. Ça commence bien. Connaissez-vous, je pense que pas mal tout le monde ici connaît ma grand-mère, Madame Francis, qui est en arrière, là. Je sais, elle n'aime pas ça que je la mette sur le spot, là. Mais ma grand-mère m'a appris beaucoup d'affaires dans ma vie. Puis, elle m'a appris là, que c'est important de lire la Bible à tous les jours. C'est important d'être discipliné. Elle m'a appris beaucoup de bonnes affaires. Je pourrais faire un message au complet, je pense, sur les choses qu'elle m'a appris. Mais une des choses qu'elle m'a appris, que je pense qui m'a marqué le plus, c'est l'art de faire le ménage. Tu sais, là, si j'étais chez nous en train de laver le comptoir, ma grand-mère, si elle me voyait que je manquais un spot. Oups, Jeff, t'as manqué un spot, là, faut que tu tasses les affaires. Puis ça restait avec moi, ça. J'ai appris à bien faire le ménage. Je suis très heureux que ma grand-mère m'ait appris à faire le ménage. Aujourd'hui, c'est pas des jokes. Aujourd'hui, de tous les enfants qui ont été chez nous, puis on était sept, je pense que je suis celui qui a toujours eu la chambre la plus propre. C'est vrai, René? C'est vrai. C'est toujours moi qui faisais le ménage le mieux dans sa chambre. Puis ma grand-mère, elle, si tu rentres chez eux, là, son plancher tout le temps propre. C'est fou, là. Elle fait tout le temps le ménage qui est là. C'est de quoi je parle, là. Oui, oui. Ma grand-mère, elle fait tout le temps le ménage sur le plancher. Puis, hier, j'étais chez mes grands-parents, on regardait le football, puis mon grand-père mangeait des noix, il faisait des graines, ça tombait à terre. Ma grand-mère, elle dit, hey, là, va falloir que je ramasse ça, là. Puis, je connaissais ma grand-mère, il a fallu qu'elle ramasse ça. Puis, elle garde ça propre. Pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? Bien, c'est que ma grand-mère, son plancher, il est sain. Ma grand-mère, son plancher, il est spécial. Elle garde toujours propre. Alors, ça, c'est ce que je veux vous parler ce soir, c'est la sainteté de Dieu. Dieu, il est un peu comme le plancher de ma grand-mère, il est brillant. Prenez pas l'illustration à l'extrême. Mais Dieu, il est sans défaut, sans tache. Dieu ne tolère pas qu'il y ait une tache. Dieu ne tolère pas les tâches. Il ne tolère pas le péché. Premièrement, on va regarder ce soir, on va faire ça bien vite. Je veux dire trois affaires, puis après ça, vous allez pouvoir partir. Premièrement, ça veut dire quoi, saint? Deuxièmement, on va regarder le problème avec la sainteté de Dieu. Ou plutôt notre problème face à la sainteté de Dieu. Et finalement, la solution. Commençons avec « ça veut dire quoi, saint? » Y a-t-il du monde qui ont des idées dans la salle? C'est quoi ça veut dire, saint? Go, lancez-moi des idées. Sans défaut, sans péché, la définition de saint, c'est quoi? Mis à part, pur, consacré. OK. Ça veut dire mis à part, distinct, spécial, dans une classe à part ou encore pur. On peut penser à la vaisselle qu'on garde dans le bahut chez nous. J'ai amené des aides visuelles. Là. Faut que je fasse bien attention à celle-là. Ça, cette vaisselle-là est sainte. OK, elle est mise à part. Ma mère, elle le garde dans le bahut. À ce que je sache, on s'en est jamais servi. En tout cas, de toute ma vie, on s'en est jamais servi. Elle est distincte, si on compare les deux, là. Elle est dans une classe à part et elle est pure. Faut que j'y fasse attention, là. OK, ma mère, elle va me tuer si je la casse. OK, cette vaisselle-là, c'est la vaisselle sainte. Sainte. Cette vaisselle-là n'est pas sainte. Aussi, quand quelque chose ou quelqu'un est saint, on ne peut pas agir n'importe comment avec. La vaisselle ici, qui est pas sainte, je peux faire n'importe quoi avec. Je peux mettre du beurre de peanut dessus. Je peux attirer dans les airs. C'est pas grave si je l'échappe. Là, c'est pas grave, c'est incassable en plus, c'est merveilleux. OK? Celle-là, je peux faire n'importe quoi. Celle-là, là, je ne me risquerai même pas à la lancer dans les airs parce que si je l'échappe, ce ne sera pas beau. Quand quelque chose ou quelqu'un est saint, on n'agit pas n'importe comment avec. Il faut que j'y fasse très attention à cette assiette-là. Aussi, ce qui est saint ne doit pas être en présence de ce qui ne l'est pas. Si je mets les deux assiettes une à côté de l'autre, OK? La vaisselle sainte qui est en présence de la vaisselle qui n'est pas sainte, ça fait laid. Ça ne va pas ensemble. Et aussi, ce qui arrive pour la vaisselle qui n'est pas sainte, je sais que c'est très banal comme illustration, mais quand même, La vaisselle qui n'est pas sainte, celle-là, si on la regarde tout seul, okay, elle a peut-être l'air correcte. Bon, c'est un peu quétaine, les petites fleurs dessus. Mais quand elle met à côté d'une belle assiette sainte, c'est là qu'on voit que celle-là là, est pas si belle que ça, finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas saint ne doit pas être en présence de ce qui est saint. Parce que ça l'expose à quel point ce qui n'est pas saint n'est pas beau. Maintenant, le problème face à la sainteté. Le problème, c'est que Dieu il est saint et nous, on ne l'est pas. Là, je tirez-moi pas des roches, s'il vous plaît. Cette assiette-là est comme Dieu. Dans le sens qu'elle est sainte. Dieu, il est... Bon, cette assiette-là a peut-être un peu de défaut, mais Dieu, il est sans défaut. Dieu, il est saint. Il est distinct. Il est dans une classe à part. On ne peut pas approcher Dieu n'importe comment, tout comme qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette assiette-là. Avec Dieu, on ne peut pas l'approcher n'importe comment. Et aussi, nous qui ne sommes pas saints, on ne peut pas être en présence de Dieu. Vous comprenez? Ça fait-tu du sens? L'illustration, là, je dis que l'assiette pas belle, si on la met en présence de l'assiette qui est belle, on voit à quel point que celle-là, par comparaison, est dégueulasse. La même chose, quand nous, on est en présence de Dieu, on peut se comparer à Dieu puis on fait « wow ». On est dégueulasse. On va regarder quelques illustrations de la sainteté de Dieu dans la parole. Tournez avec moi dans Exode 33. Exode 33. Verset 13. Et on va lire jusqu'au verset 20. C'est Moïse qui parle à Dieu. Il dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Moïse, en gros, il demande de voir Dieu. Ensuite de ça, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » C'est là, Moïse dit, « Je veux te voir, Seigneur, je veux voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Moïse voulait voir Dieu, mais Dieu lui a dit, « Je suis désolé, tu ne peux pas me voir, l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Moi, je ne suis pas beau de même. Moi, je suis chef, vous êtes tout en train de me regarder, vous êtes tout encore vivant. Mais Dieu, imaginez-vous à quel point il est grandiose. On ne peut pas le voir et vivre. Ça, c'est à quel point Dieu est saint. On va aller ensuite dans Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, on va commencer à lire à partir du verset 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Maintenant, regardez ça à partir du verset 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Encore une fois, ici, on voit à quel point que Ésaïe, là, il voit Dieu. Il voit Dieu dans toute sa grandeur. Et Dieu, Ésaïe, il ne fait pas « Oh, wow! » Il ne fait pas « Ah, oh, Seigneur, je suis tellement content de te voir, j'ai des questions à te poser. Adam et Ève, y avait-tu un nombril? » Je sais que tout le monde se pose cette question-là. Il n'a pas été voir Dieu pour lui dire « Ah, oh, Seigneur, je t'aime. » Il a pas. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il est tombé et il a dit « Malheur à moi. » Il a vu Dieu. Il a vu Dieu à quel point il était grandiose. Il a vu Dieu à quel point il était beau. Il a vu aussi à quel point, qu'en comparaison, que lui, il ne se mesurait pas au standard de Dieu. Il a vu à quel point qu'il était loin du standard de Dieu. Aussi, remarquez que les séraphins, c'est des anges. Ici, eux-mêmes, c'est des créatures qui n'ont pas de péché. Mais eux aussi, ils se couvrent les pieds, ils se couvrent les yeux. Et ils crient « Saint, Saint, Saint ». Eux aussi, même s'ils n'ont pas de péché, ils réalisent à quel point qui sont inférieurs à Dieu. On va regarder ensuite Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. C'est un passage qu'on connaît assez bien. Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. C'est juste avant le déluge, l'histoire qu'on connaît très bien, l'arche de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et comme on sait, là, Dieu a choisi Noé parmi tous les gens de la terre pour pouvoir être sauvé. Pensez-y, Dieu, il est tellement saint. Dieu, il est tellement... il ne peut tellement pas être en présence du péché qu'il a exterminé une génération complète sauf 8 personnes. Ça, c'est à quel point Dieu il est saint. À quel point Dieu ne peut pas être en présence du péché. Ensuite de ça, Lévitique, chapitre 4. Un livre qu'on connaît tous très bien, le livre de Lévitique. C'était une joke. Lévitique, chapitre 4. On ne lira pas le chapitre au complet. On va lire à partir du verset 4. Là, c'est Dieu qui donne des instructions pour comment faire les sacrifices. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera la main sur la tête du taureau qui l'égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra le sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Hey, c'est juste moi où c'est compliqué d'être sacrificateur? Imaginez-vous, ça c'est encore une fois, on voit à quel point que Dieu il est saint, à quel point Dieu ne peut pas être en présence du péché. Et on voit aussi qu'on n'approche pas Dieu n'importe comment. Non, ces instructions-là, ça ne s'applique plus à nous aujourd'hui. On ne fait plus des sacrifices parce que Jésus-Christ Le seul sacrifice est venu. Mais ça reste qu'on voit que Dieu, il ne veut pas qu'on l'approche n'importe comment. Les sacrificateurs, dans ce temps-là, il y avait des instructions très, très précises à suivre. Okay, il faut qu'il égorge le taureau, il mette le doigt dans le sang, il faut qu'il l'asperce 7 fois, pas 6, pas 8, 7. C'était super, super précis. On n'approche pas Dieu n'importe comment. Dieu, il est saint. Après ça, Lévitique chapitre 10, versets 1 à 3. On a ici un exemple de deux gars qu'eux autres, ils se sont dit, « Bois, les instructions de Dieu, là, c'est bien beau, mais nous autres, on va essayer de faire de quoi un peu différent. » Puis Dieu, il n'a pas trouvé ça bien drôle. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Hey, c'est heavy, ça, là. Les gars ont fait de quoi que Dieu ne leur a pas ordonné. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Bang, zappé, mort. Encore une fois, on n'approche pas Dieu n'importe comment. Ces gars-là avaient des instructions claires pour leur adoration. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont fait de quoi qu'ils n'étaient pas supposés faire. Dieu les a brûlés, les a mis à mort. On n'approche pas Dieu n'importe comment parce que Dieu, il est saint. Et au verset 3, ça dit, « Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » On va regarder ensuite... Finalement, 1 Chronique 13, 7 à 10. C'est un autre exemple d'un gars que lui non plus, il n'a pas suivi les instructions que Dieu lui avait données. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Achjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit sa main pour saisir l'arche, parce qu'il pensait que parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. Encore une fois, c'est quelque chose que Dieu avait strictement défendu. Il n'y a personne qui avait le droit de toucher à l'arche. Dans l'Ancien Testament, on avait eu des instructions très précises. Quand le monde allait transporter l'arche, il y avait des petits anneaux sur l'arche, c'est comme une espèce de boîte, et puis il y avait des petits anneaux sur le dessus. On était supposé rentrer des poteaux de bois dans les anneaux, et là, il y avait des sacrificateurs qui levaient les poteaux, puis ils pouvaient le promener comme ça. Eux, ils ont décidé qu'ils allaient faire à leur façon. Ils ont mis l'arche sur un char. Direct en partant, c'était pas correct. Mais là, en plus de ça, Uzza, lui, il s'est dit, bah, ça va tomber. Lui, il pensait, je ne sais pas s'il pensait peut-être faire son devoir de bon juif puis d'essayer de l'empêcher de tomber, mais il a mis sa main dessus. Puis ça, c'était trop. L'arche, c'était un objet saint. Et puis, il a été frappé de mort. Est-ce que vous commencez à voir à quel point que Dieu, c'est un Dieu saint? À quel point que Dieu, c'est un Dieu qu'on ne niaise pas avec? À quel point que Dieu, c'est un Dieu que faut l'approcher d'une certaine façon. Faut pas juste... quand on arrive pour l'adorer le dimanche matin, on peut pas juste arriver puis se dire, tu sais, moi j'arrive ici, puis c'est pas grave là ce que je fais. C'est pas grave ce que j'ai fait pendant la semaine. Tu sais, j'arrive ici, les idées n'importe comment, puis je m'assois ici pendant une heure. Puis ça, c'est mon adoration. puis c'est tout, c'est fini. Non, c'est très sérieux l'adoration pour Dieu. Finalement, la solution face à notre problème. Récapitulons le problème. Le problème, c'est que Dieu est saint et nous ne le sommes pas. C'est assez simple. La solution, c'est qu'il faut être sauvé pour avoir le Saint-Esprit en nous. Ceux qui sont sauvés, on a le Saint-Esprit en nous. On a cette capacité-là d'être sanctifié par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 9, sans y tourner, ça dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, n'hésitez pas à venir me parler ou à venir parler à Jean-Luc ou quelqu'un qui pourrait vous aider à vous expliquer comment vous pouvez recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir devenir plus comme ce Dieu-là qui est aussi saint. Et après ça, avec l'aide du Saint-Esprit, il faut obéir au commandement de Dieu dans 1 Pierre 1, 15 et 16. Pas besoin d'y tourner, je l'ai sur l'écran. Ça dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Dieu, c'est le standard. Dieu lui met la barre et il dit faut qu'on soit saint parce que lui est saint. C'est sûr qu'on ne peut jamais arriver à être saint comme Dieu l'est, mais c'est quand même le standard auquel il faut aspirer. On parle ici du Dieu qui a détruit toute une génération parce qu'il pensait toujours juste au péché. C'est le Dieu que quand Ésaïe l'a vu, il est tombé face par terre. Puis il a dit « Malheur à moi ». C'est le Dieu qui a frappé de mort deux hommes parce qu'ils ont fait de quoi parce qu'ils ne l'ont pas approché de la bonne façon dans leur adoration. Pensez-y à comment vous approchez Dieu. Dieu, c'est un Dieu saint. Soyons saints, nous aussi. On va terminer par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour cette soirée. Je te remercie que tu es un Dieu saint, justement. Je te prie que tu puisses nous aider, nous aussi, à être saints, puis à nous conformer à ton image. Selon ton Fils que je t'ai pris. Amen. Avant de partir, on est supposé de chanter une chanson. Lise me dit d'attendre une minute. Bon, ben, je vais vous le dire. On va chanter Bonne fête à Francis. Francis, je vais vous expliquer, c'était sa fête cette semaine, puis il n'aime pas ça se faire chanter Bonne fête. Fait que, ben, il s'est en allé avant qu'on puisse lui chanter au face à face. Donc, on s'est dit qu'on allait être gentil, puis on allait y chanter ici même ce soir, hein? C'est le fun! Bon, ça revient-tu? Bonne fête, Francis! Bonne fête, Francis! Bonne fête, bonne fête! Bonne fête, Francis! Ouais!